en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour Alain Israël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans les locaux de Canal Académie. Alors je sais que votre activité de directeur de recherche au CNRS vous prend pas mal de temps. Et nous vous remercions donc au sein de toute l'équipe de Canal Académie de nous accorder un petit peu de temps auprès de nous. Alors Alain Israël, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler de votre carrière, de vos recherches qui vous ont valu d'entrer à l'Académie des sciences dans la section biologie cellulaire, moléculaire et génomique. C'était en juin 2005. Alors actuellement, je viens de le dire, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes également professeur à l'Institut Pasteur. Première question qui sera toute simple, Alain Israël. En quoi consistent vos travaux actuellement?
Bien. Alors, pour essayer d'expliquer ça de manière assez simple et compréhensible par tout le monde, mes travaux consistent essentiellement, d'un point de vue assez fondamental, d'essayer de comprendre comment une cellule, n'importe quelle cellule, dans un tube à essai, dans une boîte en plastique ou dans un animal ou chez l'homme, répond à l'océan de signaux dans lequel elle baigne habituellement. Donc les cellules, comme nous-mêmes, sommes baignées dans un flot d'informations. Il faut que la cellule décrypte toutes ces informations. Certaines sont contradictoires. Et qu'en fonction de ces informations, elle décide de modifier son comportement, de modifier sa nature même, ou de continuer à faire ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant, si c'est ça qu'on lui dit de faire.
Alors, tout simplement, on va prendre un exemple avec le cancer. Alors, en quoi qu'on va consister vos recherches dans le cadre du cancer, avec une cellule cancéreuse?
Bon, il faut peut-être que je précise un peu ce qu'on appelle signalisation cellulaire. Grosso modo, la cellule est fermée à l'extérieur par une membrane qui la protège de l'extérieur, mais qui en même temps lui permet de communiquer avec l'extérieur, mais de manière non anarchique. Donc à la surface de cette cellule, il y a des molécules qu'on va appeler des récepteurs. Et ces récepteurs, justement, sont sensibles aux différents signaux. Mais il y a des récepteurs de toutes sortes à la surface des cellules. Ils peuvent varier d'un type cellulaire à l'autre. Les récepteurs sur une cellule de foie sont pas évidemment les mêmes qu'à la surface d'un neurone, quoiqu'un certain nombre de molécules puissent être communes aux deux. Et donc, ces récepteurs vont recevoir un signal de l'extérieur, un signal qui peut être soit une hormone, du stress, n'importe quoi qui circule dans le sang et qui vient abreuver les cellules. Et donc, ce récepteur va transmettre le signal. Ce signal va se transmettre molécule à molécule, c'est pour ça qu'on appelle ça une cascade, jusqu'au noyau dans lequel se situent les gènes. Et donc, en fonction de ce signal, la cellule va modifier l'expression de tel ou tel gène, en allumer certains, en éteindre d'autres, grosso modo modifier son comportement. Donc ce que mon groupe de recherche essaye de comprendre, c'est comment se fait la transmission entre la membrane extérieure, c'est-à-dire l'extérieur du monde, grosso modo, et le noyau, qui est le fondement génétique, l'identité cellulaire. Donc en fonction du signal extérieur, la cellule va changer son programme génétique, ou ne pas le changer, ou le changer partiellement, ou de manière différente, et se comporter de manière plus ou moins différente, ou carrément même mourir, puisque c'est un type de signal que les cellules peuvent recevoir. C'est un signal qui leur dit de mourir. Alors, c'est pas nécessairement un signal péjoratif. Au cours du développement d'un embryon, il y a énormément de cellules en trop qui sont fabriquées et qui meurent progressivement parce simplement elles sont programmées pour, et il faut qu'elles disparaissent justement afin que l'animal ou l'humain entier se forme de manière harmonieuse. Et justement, des défauts de cette mort programmée peuvent aboutir à des perturbations extrêmement graves du développement de l'embryon.
Par exemple, depuis une dizaine d'années, concernant les cancers, vous parliez de drogues qui pouvaient être plus ciblées sur les récepteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bon, je vais vous dire d'une part ce qui se fait généralement en termes de cancérologie. Enfin, je ne suis pas cancérologue, mais enfin mes connaissances sont quand même suffisantes pour comprendre au moins la manière dont on essaye de tuer spécifiquement les cellules cancéreuses. Et ensuite, dans quelle mesure les mécanismes de signalisation cellulaire que nous étudions peuvent s'appliquer au traitement, ou au moins partiellement au traitement de certains cancers. Donc grosso modo, les cellules cancéreuses, c'est des cellules qui échappent, enfin qui interprètent comme les autres les signaux qui viennent de l'extérieur. Donc en cela, elles sont pas très différentes des cellules normales. C'est d'ailleurs un des problèmes fondamentaux de la cellule cancéreuse, c'est qu'elle ressemble tellement aux cellules normales du malade que quand on tue les unes, on tue les autres. En général, d'où la toxicité très
problèmes des chimiothérapies.
Des chimiothérapies, surtout des chimiothérapies non spécifiques qui consistent à grosso modo bloquer toutes les cellules qui se multiplient. Alors effectivement, toutes les cellules qui se multiplient dans le corps vont être bloquées de la même manière, que ça soit les cellules sanguines, l'épithélium intestinal, etc. Donc, ces cellules cancéreuses donc reçoivent les signaux comme tout le monde, toutes les autres cellules. Néanmoins, elles ne les interprètent pas de la manière correcte. C'est-à-dire, si elles reçoivent un signal qui leur dit qu'il faut qu'elles arrêtent de se multiplier, eh ben elles l'ignorent, continuent à se multiplier. Ou alors, si elles reçoivent un signal qui leur dit qu'il faut qu'elles meurent, eh ben elles ne meurent pas. Alors ça, c'est le problème majeur des cellules cancéreuses. Donc, jusqu'à maintenant, on essayait un peu de tuer toutes les cellules. Maintenant, on a identifié les récepteurs qui sont responsables de la réponse d'une cellule à l'ordre « arrête de te multiplier » ou au contraire « multiplie-toi, meurs ou ne meurs pas ». Donc, on peut, on imagine, et en fait on peut, et maintenant il existe les premières drogues développées depuis une dizaine d'années à peu près, qui ciblent spécifiquement ces récepteurs que la cellule utilise pour proliférer, etc. Donc on a déjà un peu plus de spécificité dans les traitements anticancéreux. Qui dit plus de spécificité dit moins de toxicité. Néanmoins, c'est pas encore parfait, et à mon avis, le problème du cancer est un des problèmes les plus sérieux qui se posent aux biologistes. On peut imaginer trouver peut-être pas un vaccin contre le sida, mais au moins on a stabilisé l'épidémie en contrôlant la réplication du virus. Le virus du sida c'est un pathogène extérieur, donc on peut cibler le pathogène extérieur sans abîmer trop l'hôte. Le paludisme, c'est très très difficile, mais on avance un petit peu, on aura peut-être un vaccin contre le paludisme. Malheureusement, le cancer, il n'y a pas de pathogène extérieur. Les cellules cancéreuses sont les cellules du patient. Il est très difficile de trouver des drogues qui distinguent l'une de l'autre et qui ne soient pas trop toxiques. Et à mon avis, c'est le but actuel de toutes les recherches en cancérologie, c'est la spécificité. Plus des problèmes techniques annexes de vectorisation et d'autres dans lesquels je veux pas rentrer. Mais le problème, c'est tuer spécifiquement la cellule cancéreuse. Et ça, malheureusement, j'ai peur que ça prenne encore beaucoup de temps.
Donc on ne parle pas encore de thérapie anticancéreuse.
Si, on peut parler de thérapie anticancéreuse, mais de thérapie peu spécifique. Thérapie anticancéreuse moyennement spécifique, disons plus spécifique qu'avant, mais on n'en est pas encore à trouver une drogue qui va, dans le cas par exemple d'un cancer du côlon, tuer uniquement les cellules de côlon qui dérivent. Et encore, le problème supplémentaire, c'est les métastases qui, elles, ont encore énormément dérivé par rapport à la tumeur initiale et pour lesquelles il va peut-être falloir encore trouver d'autres drogues. Donc ça, c'est un vrai problème.
Alors, vos travaux, Alain Israël, ont aussi porté sur la découverte d'une pathologie, d'une maladie génétique. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette maladie génétique?
Oui, je vais vous en parler, mais avant, je voulais peut-être expliquer en quoi nos travaux ont un lien avec le cancer.
Oui.
La voie de signalisation sur laquelle nous travaillons, qui s'appelle NF-kappa-B, mais enfin je pense pas que le nom présente un grand intérêt, est une voie de signalisation que la cellule utilise pour résister aux signaux de mort programmés. Autrement dit, on a constaté qu'un grand nombre de cellules cancéreuses avaient allumé cette voie de signalisation pour des raisons qui nous sont très mal comprises, et du coup, du fait de l'allumage, entre guillemets, enfin du fait que cette voie de signalisation est en permanence allumée, alors que normalement elle ne devrait pas l'être, fait qu'elles sont résistantes aux signaux de mort programmés, et donc que ces cellules cancéreuses meurent beaucoup moins, et au moins quand elles reçoivent des signaux de mort, parce que le corps se défend, et le corps reconnaît les cellules cancéreuses
bien
comme
sûr
étant anormales, donc le corps leur envoie des signaux de mort, mais malheureusement, elles n'y répondent pas, et en partie parce qu'elles ont allumé cette voie de signalisation. Donc ça, c'était l'importance de cette voie de signalisation, et en fait, certaines drogues, très récemment, commencent à tenter de cibler cette voie, donc à permettre de nouveau aux cellules de répondre aux signaux de mort en mourant. Et malgré tout, il faut bien comprendre que ça ne peut pas être l'unique traitement d'un cancer, ça ne peut être qu'un composant parmi une multithérapie. Et je pense que le terme de multithérapie est important. Si on veut vraiment vaincre le cancer ou tuer les cellules cancéreuses, il faut attaquer les cellules de 3 ou 4 manières différentes et indépendantes, comme on l'a fait pour le sida avec les trithérapies.
Mais donc on pourrait arriver à commander à la cellule cancéreuse de s'éteindre,
de
en
mourir.
Quelque sorte, de mourir.
De mourir à condition qu'elle reçoive bien des signaux de mort.
Oui.
Et si elle ne reçoit pas de signaux de mort, dans ce cas-là, il va falloir trouver un autre moyen pour la tuer, si possible en visant spécifiquement cette cellule et pas les cellules voisines. Toujours le même problème, donc. Alors, les pathologies génétiques, eh ben, en parallèle, cette voie de signalisation, toujours la même dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, qui joue un rôle dans la résistance à la mort cellulaire programmée, joue aussi un rôle très important dans la réponse immunitaire. Et on s'est aperçu, assez récemment, que des pathologies, des défauts de la réponse immunitaire, qu'on trouve très, très fréquemment dans les services cliniques, étaient dus, justement, à des mutations dans les gènes codant pour les différentes étapes de cette cascade d'activation. C'est effectivement intéressant parce que ça permet d'identifier la cause d'une maladie, ça permet de faire des diagnostics prénatals. Malheureusement, ça ne permet pas réellement de soigner ces maladies génétiques parce que il est difficilement imaginable, bien que ce soit le rêve d'un certain nombre de cliniciens, de réintroduire un gène correct dans un organisme où ce gène serait muté dans toutes les cellules. On peut le faire pour les cellules sanguines, parce qu'il suffit de les sortir du corps, de réintroduire le gène, de les réintroduire dans le corps, et a priori, on peut partiellement ou complètement compenser le défaut. Mais il est évidemment hors de question d'imaginer de remplacer un gène par un autre dans toutes les cellules du foie, ou dans toutes les cellules du cerveau, ou dans toutes les cellules musculaires. Donc là, on a un réel problème. Donc identifier le gène, c'est bien, mais c'est frustrant en même temps, parce qu'on se retrouve devant un mur. Comment soigner ces patients? Alors on peut conseiller les familles, on leur dit bien sûr, vous êtes porteur, faites attention, faites faire un diagnostic prénatal sur vos enfants, etc. Et alors si j'ai un enfant malade, qu'est-ce que je fais? Eh ben, on n'a pas de réponse, oui. On n'a pas grand-chose à leur fournir à l'heure actuelle parce que on ne sait pas remplacer un gène par un autre chez un homme. Chez un animal, on sait le faire, mais évidemment, les techniques utilisées chez la souris ne sont évidemment pas applicables chez l'homme, pour des raisons déontologiques, bien entendu.
D'accord. Donc, pour le coup, cette maladie génétique sur laquelle vous avez pu identifier le gène, voilà. De quoi s'agit-il?
Alors, c'est une maladie qui a un nom barbare, qui s'appelle incontinentia pigmenti. Alors, le nom vient simplement du fait que c'est une maladie qui se caractérise par la mort avant la naissance chez les garçons. Et par contre, chez les filles, on trouve des défauts qui concernent essentiellement des problèmes de pigmentation de la peau, donc pas nécessairement très graves, avec malgré tout un certain pourcentage de formes plus graves. Donc ce défaut de pigmentation de la peau, c'est de là que vient le nom incontinentia pigmenti, c'est-à-dire le défaut de pigmentation. Donc c'est une maladie qui n'est pas extrêmement fréquente, mais qui quand même perturbait pas mal les chercheurs, et un consortium de généticiens était à la recherche du gène responsable de cette pathologie depuis une dizaine d'années. Ils avaient défini une région sur un chromosome où il y avait une cinquantaine de gènes qu'ils étaient prêts à tester un par un pour savoir lequel était vraiment responsable de la maladie. Mais au milieu de ces gènes, il y en avait un qu'on avait cloné dans notre laboratoire et qui justement était impliqué dans cette voie de signalisation dont j'ai parlé précédemment. Et comme les cellules des patients semblaient avoir des problèmes de mort programmés, ils sont venus nous voir et ils ont testé si par hasard ce gène ne portait pas les mutations. Et là, bah oui, toutes les mutations chez toutes les familles, 200 familles, 200 mutations dans le même gène. Du coup, on sait maintenant d'où vient cette pathologie, mais on ne sait pas pour autant la soigner.
Mais en tout cas, vous pouvez prévenir les familles.
On peut prévenir les familles, absolument. On peut faire du diagnostic. Enfin, c'est les cliniciens, Arnold Munich, par exemple, avec qui nous avons collaboré, qui se chargent de ça. Ils font du diagnostic prénatal et ils disent, vous êtes porteur, vous n'êtes pas porteur, faites attention, etc. Enfin, tout ce qui se fait en diagnostic prénatal. Donc, c'est un confort intellectuel, si on veut. Mais malheureusement, ça ne résout pas encore les problèmes des familles. Mais là, je sors un peu de mon domaine d'expertise. Il faudrait que vous interviewiez plutôt Arnold Munich à ce sujet.
Alain Israël, vous êtes un jeune directeur de recherche au CNRS. On peut le lire.
En tout cas, vous avez mathématicien plutôt vieux, oui.
En tout cas, vous avez un parcours exceptionnel, puisque vous êtes entré très tôt à l'Institut Pasteur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel était votre parcours?
Alors mon parcours, j'ai commencé par faire des maths et je rêvais d'être chercheur en mathématiques. J'avais déjà envie de faire de la recherche, mais en mathématiques. Et donc j'ai fait des prépas en maths et malheureusement, ou plutôt plus probablement heureusement pour moi, j'avais dans ma classe un collègue qui était ce qu'on peut appeler un génie entre guillemets en mathématiques, etc. Et pour lequel j'avais pu constater que son mode de fonctionnement mental ne correspondait absolument pas au mien, ni à celui d'ailleurs de tout le restant de la classe, et qu'il n'utilisait pas du tout les voies classiques pour résoudre les problèmes mathématiques. Donc ça m'a assez rapidement fait comprendre que...
Ça vous a découragé un petit peu?
Oui, je crois pas que j'aurais fait quelque chose de vraiment très bien en mathématiques. J'avais pas... je pense pas avoir eu l'esprit formé de manière adéquate.
Et du coup,
alors, comment je suis
passé
à la biologie? Simplement parce que, à côté de ça, j'avais un autre ami, chez qui je passais de nombreux week-ends, et son père dirigeait un laboratoire de recherche. En fait, c'est chez lui que j'ai fait la thèse, finalement. Et chaque fois que j'allais là-bas, il me bassinait, entre guillemets, avec des questions de biologie qui m'intéressaient à l'époque pas tellement, parce que je voulais faire des maths, mais finalement, après avoir abandonné les maths, je me suis dit, bah, tiens, peut-être, essayons de faire de la biologie. Donc, j'ai été faire mon DEA et ma thèse avec lui. Et j'ai continué depuis.
Et votre thèse alors, puisque vous avez réalisé une thèse, sur quoi portait-elle?
Alors ma thèse portait, ça c'est amusant d'ailleurs rétrospectivement, elle portait sur la grippe aviaire et sur un virus aviaire qui était adapté, ça c'était en culture, hein, c'était pas sur des, évidemment sur des patients, qui était adapté à pousser sur des cellules de mammifères. Alors, vu rétrospectivement, ça a une certaine résonance aujourd'hui. Et alors, ce qui est encore plus amusant, c'est que j'avais pu quand même identifier chez ce virus adapté le gène. Il y a 8 gènes d'un virus grippal. Enfin, ça dépend un peu de la manière dont on les compte. Mais à l'époque, on comptait qu'il y en avait 8. Et donc, j'avais pu identifier le gène qui était responsable de la possibilité de ce virus de pousser dans des cellules de mammifères. Et très récemment, le virus extrêmement mortel de la grippe espagnole a été séquencé et on a constaté que c'était un virus purement aviaire et non pas un mélange entre un virus de porc ou humain et un virus aviaire, mais qu'il y avait justement une mutation dans ce même gène que j'avais identifié comme étant responsable de l'adaptation aux cellules de mammifères.
P3.
À l'époque, P3. Maintenant, il a changé. La nomenclature a changé. Donc, j'étais une sorte de précurseur, mais j'ai pas poursuivi. Après ma thèse, j'ai changé de sujet.
Vous avez changé de sujet.
Et en plus, les outils à l'époque dont on disposait, la biologie moléculaire n'était pas apparue, et rien ne me permettait techniquement de pousser plus avant mes recherches et d'essayer de comprendre comment ce gène, si ce gène était réellement muté, et s'il était muté, quelle fonction supplémentaire, quelle propriété supplémentaire ça lui donnait. Donc
d'accord.
Ça s'est arrêté là.
Donc justement, donc la biologie moléculaire n'était pas encore très développée. Et donc, lors de votre première année de thèse, je crois, vous êtes entré
Alors, je suis entré au CNRS assez rapidement, ce qui m'a donné un certain confort intellectuel que les étudiants de notre époque m'enverront certainement. Et maintenant, c'est devenu
c'est quand même assez
un
rare,
parcours du combattant.
Ouais.
Mais à l'époque, c'était pas quelque chose de vraiment extraordinaire. Les gens rentraient au CNRS très très tôt, ce qui est effectivement, rétrospectivement, est peut-être une aberration. Parce que après un DEA, engager quelqu'un pour 45 ans de recherche sans même savoir s'il est apte à faire ne serait-ce qu'une thèse, c'est un petit peu bizarroïde. Enfin bon,
en tout cas, vous avez bien répondu aux critères.
Oui, effectivement.
Donc vous êtes parti 2 ans à Stanford après.
Je suis parti 2 ans après ma thèse, je suis parti 2 ans à Stanford et je suis parti essentiellement à Stanford pour essayer d'apprendre cette biologie moléculaire qui me semblait représenter les outils qui m'avaient manqué pendant ma thèse pour essayer de comprendre comment les aspects, entre guillemets, mécanistiques. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse en général en biologie, c'est un peu d'essayer de comprendre comment ça marche, quoi. Comme les enfants qui ouvrent les machines pour voir comment elles marchent et puis qui après n'arrivent pas à les remonter. Donc la biologie moléculaire me semblait représenter les outils indispensables à cette compréhension. Donc je suis parti pendant 2 ans à Stanford. J'ai pas produit beaucoup, j'ai beaucoup appris, c'était une espèce de club méditerranéen, on peut dire ça comme ça, étant donné que j'avais déjà un poste, j'avais pas grand chose à perdre, donc c'était plutôt agréable. J'y étais en famille, donc ma fille a appris l'anglais là-bas en 3 mois, donc c'était très bien. Et ensuite, ensuite j'ai rencontré Philippe Kurelski, qui se promenait à Stanford et qui m'a proposé ensuite une place dans son laboratoire. Et au retour de Stanford, j'ai rejoint son équipe à l'Institut Pasteur, où je suis depuis 1983.
Et du coup, là, vous continuez, depuis 83 jusqu'à aujourd'hui, vous travaillez sur ces fameuses cellules.
Je travaille sur cette voie de signalisation, et puis une seconde sur laquelle j'ai commencé à travailler un peu plus tard pour essayer de diversifier un petit peu ce qui se faisait dans le laboratoire. Alors c'est une voie de signalisation qui fonctionne de manière très différente de la première, mais là je ne veux pas tellement rentrer dans les aspects techniques parce que ça ne présente pas un grand intérêt. Disons que ça complète un petit peu, c'est d'un point de vue fondamental et d'un point de vue des techniques et d'un point de vue des principes, c'est quelque chose qui est relativement complémentaire de la première voie de signalisation sur laquelle je travaillais. Donc il y a 2 groupes dans mon laboratoire, un groupe qui travaille sur la première voie dont j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant qui s'appelle NF-kappa-B, et un second groupe qui travaille sur cette voie de signalisation qui s'appelle Notch et qui est impliqué dans des phénomènes assez différents de la voie NF-kappa-B. Elle n'est pas impliquée dans la réponse aux signaux de mort, elle n'est pas impliquée dans la prolifération, elle est impliquée aussi dans la réponse immunitaire, mais quelle voie de signalisation ne l'est pas, mais de manière très différente de la voie NF-kappa-B. Donc, c'est grosso modo, je continue à essayer de comprendre comment ça marche.
Ça ne vous lasse pas, au bout de tant d'années ?
Disons que ça serait lassant s'il n'y avait pas de temps en temps la récompense représentée par la compréhension d'une étape, quelque chose qui pour le grand public peut sembler pas particulièrement excitant ou peut sembler comme un point extrêmement mineur, etc. Mais ça, c'est vraiment les choses qui nous font continuer, parce que sinon, c'est vrai que dans la recherche, il y a un aspect assez routinier. D'ailleurs, ma fille qui a passé de force pas mal de temps quand elle était petite dans les laboratoires, parce qu'on n'en avait personne pour la garder le soir, donc on l'a ramenée au labo, elle ne garde que deux souvenirs du laboratoire. Le premier, c'est des robinets qui fuient un peu partout, donc ça lui est resté beaucoup. Et la deuxième souvenir qu'elle garde, c'est qu'on est obligé de répéter les mêmes manips sans arrêt, parce qu'une fois elle marche pas, une fois elle donne pas les mêmes résultats, etc. Et ça lui a semblé pas extrêmement intéressant. Du coup, elle est avocate.
Et alors, quelle serait votre récompense là pour depuis quelque temps, donc vous travaillez encore donc sur ces fameuses recherches, et quelle serait votre récompense là? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver, ou alors qu'est-ce que vous cherchez à prouver là?
Oh ben, autant une voie de signalisation que l'autre, les deux que nous étudions sont toujours assez mal connues d'un point de vue des détails moléculaires, donc le travail de routine, entre guillemets, ce serait de comprendre exactement comment ça marche. Si possible, on aimerait être capable de décrire toutes les étapes d'un point de vue moléculaire entre la membrane et le noyau. La membrane extérieure et le noyau. Évidemment, ce qui serait une récompense, c'est que ces études aient une application en pathologie humaine. Alors, elles en ont déjà partiellement,
oui, déjà.
Puisqu'il y a une drogue anticancéreuse qui est basée sur le blocage de la première de ces voies de signalisation. Pour la seconde, ça reste encore très, très fondamental. Donc, la récompense, c'est la compréhension.
D'accord. Dernière question. Vous êtes donc depuis peu académicien des sciences. Pourquoi avez-vous postulé à un siège d'académicien ?
Ben, à vrai dire, j'ai pas réellement postulé. Le processus fonctionne pas réellement comme ça. C'est les académiciens déjà académiciens qui sélectionnent un certain nombre de personnes dont ils pensent qu'elles pourraient rentrer à l'académie. Et donc, c'est pas réellement une demande qui est venue de moi. J'ai
oui.
simplement reçu de ces personnes une demande sans explication particulière d'envoi de CV. Bon, en général, on comprend un peu pourquoi c'est le seul. Mais c'est à peu près... J'ai pas eu une demande particulière.
Là, qu'est-ce qui vous a séduit alors? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être entré à l'académie?
Plusieurs choses. D'une part, le contact avec un certain nombre de chercheurs que d'habitude je ne rencontre jamais. Enfin, que là, je ne rencontre pas énormément non plus, parce que le problème un peu de l'académie, c'est que pour des gens qui sont en activité encore comme moi, c'est assez difficile d'être présent à toutes
Bien
les
sûr.
Séances de tous les mardis, puisque pour l'Académie des sciences, c'est le mardi.
Il faut rappeler qu'à l'Académie des sciences, vous êtes presque
250.
Ce qui est énorme, effectivement.
C'est
vous avez. vous pouvez faire beaucoup de nouvelles rencontres, effectivement.
De nouvelles rencontres, mais en fait, il y a pas mal de gens qu'on ne voit pas très souvent. Mais ce que j'aime bien, c'est un peu ce contact avec des gens que sinon j'aurais assez peu rencontrés, que je connaissais de nom, mais que je ne rencontre jamais parce qu'on travaille sur des thématiques assez éloignées. Donc j'ai peu de chance de les rencontrer dans des congrès. Et puis, un petit peu la compréhension du rôle que pourrait avoir l'académie sur à un moment qui à mon avis est assez critique qui concerne l'enseignement des sciences, les carrières scientifiques, le financement, la loi d'orientation sur la recherche, etc. C'est un moment qui à mon avis est assez grave pour la recherche. Je parle de la recherche publique. Hein. Assez grave pour la recherche publique. On peut espérer que le poids moral entre guillemets de l'Académie des sciences arrivera peut-être à infléchir un petit peu ce que le gouvernement nous prépare.
Je vous remercie Alain Israël de nous avoir accordé un peu de temps. Voilà, cette émission se termine. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle donc pour nos auditeurs que vous êtes donc un nouvel académicien des sciences et que vous rejoignez les quelques 250 académiciens. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup.